Bonjour et bienvenue à l'Institut des Libertés, où aujourd'hui nous avons quelques petits messages à vous faire passer avant de débuter cette vidéo qui va s'organiser autour du cycle de l'énergie et spécialement revoir un petit peu ce qui se passe avec les derniers événements en Iran et autour du détroit d'Ormuz. Donc, plusieurs messages de service. Le premier est le suivant. Charles et Léonard ont commis la semaine dernière une émission à propos des bombardements en Iran, l'impact d'Israël et toute cette question relative au Moyen-Orient. Il est tout à fait normal et on le comprend tout à fait que cela déclenche des passions parce que cette question du Moyen-Orient a toujours déclenché des passions et c'est bien normal. Toutefois, il n'est pas normal que dans les commentaires, vous alliez dans du ad personam, du ad hominem, et que vous vous permettiez, pour certains, de remettre en cause la santé mentale de Charles ou ses capacités cognitives. Donc, il est toléré, bien sûr, d'avoir un discours méthodique, et vous avez parfaitement le droit, nous l'encourageons au contraire à remettre en cause les éléments point par point, mais je ne veux pas voir et je sanctionnerai toujours dans les commentaires des personnes qui se permettent de dire, je cite, il est complètement fou le vieux ou ce genre de choses, parce que vous pensez bien que c'est extrêmement péjoratif et ça n'est pas un discours qui est argumenté. Donc argumentez les faits, dites A, B, C, D, mais ne partez pas dans des vindictes personnelles, c'est insupportable. Tu veux rajouter quelque chose ?
Bah, je veux dire qu'il est normal de ne pas être d'accord. D'ailleurs, moi, je suis de temps en temps...
Même rarement d'accord avec toi-même.
Voilà, il y a des moments où je ne suis pas d'accord avec moi-même, mais il y a dans la philosophie grecque, il y a le pathos, l'éthos, c'est le logos. Le logos, c'est la discussion raisonnée à laquelle il faut opposer une autre discussion raisonnée. Si vous rentrez dans le pathos, dans l'insulte, ou me dire que je suis pas éthique ou j'en sais rien, c'est que vous rentrez dans des machins irrationnels. Et j'avais un vieux professeur à Toulouse que j'aimais beaucoup, qui disait, quand vous avez vaincu quelqu'un dans le domaine du logos, il va passer sur l'affectif et il va passer à l'insulte et à l'injure.
Oh bah de nos jours, il y va directement, surtout avec Internet. Voilà.
Donc,
si vous
devez apprendre quelque chose de l'Institut des Libertés, c'est apprenez à contrôler votre pathos. Parce que pour l'instant, vous donnez un signe assez faible. Vous savez ce que disait c'était Jacques Brel, quand on est con...
Quand on est con, on est con.
On est con. Et puis il y avait Brassens qui a rajouté, ben, un jeune con, ça donne en général un vieux con. Mm. Et ben voilà, c'est vous donnez l'impression que vous êtes con.
Mm. Oui, et peut-être que ce n'est pas qu'une impression.
Peut-être que ce n'est pas qu'une impression. Mais à ce moment-là, je ne vois pas ce que vous foutez sur l'Institut des Libertés, parce que mon but, c'est de vous apprendre des choses, pas que vous veniez avec vos... Vos vieilles rancœurs et décharger votre bile. D'ailleurs, vous le faites souvent de façon anonyme, alors je trouve ça un peu désagréable.
Oui, voilà, mais ça, c'est le jeu, ma pauvre Lucette, mais bon, parfois, c'est vrai que c'est un peu pesant. Alors, un autre point, pour le coup, sur lequel moi, j'aimerais revenir, c'est la Chine et Taïwan, parce qu'avec ce qu'on a vu là récemment et le fait que les États-Unis bombardent l'Iran, certains d'entre vous ont dit, puisque c'est comme ça, il est certain que la Chine va envahir Taïwan. Alors, plusieurs points qu'on aimerait reprendre, justement, point par point. Il faut déjà voir que en Chine et spécifiquement à Taïwan, les gens ne s'inquiètent absolument pas de ces questions. Ce sont vraiment des questions que se posent les journalistes du Washington Post et de l'AFP. En général, en Chine et à Taïwan, les choses se passent relativement bien. Contrairement au Donbass en Ukraine, qui a connu une guerre civile de faible intensité entre 2014 et 2022, faisant jusqu'à 2000 morts, il n'y a pas de crise latente à Taïwan. Il n'y a pas de tension entre la Chine et Taïwan. Il n'y a pas de règles promulguées à Taïwan interdisant de parler la langue chinoise ou supprimant les vestiges de l'héritage culturel chinois. Et la compagnie aérienne nationale de Taïwan s'appelle toujours China Airlines. Air China est la compagnie aérienne du continent. Donc, déjà, il n'y a pas d'opposition, il n'y a pas la
ils
Chine...
Ils reconnaissent tous les deux qu'ils sont chinois.
Oui, bien sûr. Donc, il n'y a pas à l'inverse...
Les Taïwanais n'ont jamais dit on n'est pas chinois.
Voilà. Alors, Ensuite, pour ce qui est des lignes rouges que la Chine a mis vis-à-vis de Taïwan. Les lignes rouges de la Chine vis-à-vis de Taïwan, c'est que Taïwan ne déclare pas son indépendance et que Taïwan ne travaille pas à la fabrication d'une bombe nucléaire. C'est-à-dire, la Chine a dit, tant que vous ne demandez pas votre indépendance, que vous ne bougez pas comme des gardons ou que vous n'essayez pas de fabriquer une bombe nucléaire, on ne bougera pas, on restera tranquille. Donc ça, pour l'instant, tout se passe bien. Aujourd'hui, donc, à Taïwan, le Parti démocrate progressiste ne contrôle environ qu'un tiers du Parlement, alors que les deux tiers des députés restent donc farouchement opposés à l'indépendance. Donc, pendant les quatre prochaines années, démocratiquement, il ne peut rien se passer en termes de vote à Taïwan. Donc ça, c'est quand même un truc que les gens devraient un petit peu regarder aussi.
Et s'ils regardent l'Iran, ils se disent que c'est peut-être pas une bonne idée de faire une arme nucléaire.
Voilà. Ensuite, si quelque chose de positif doit être lu au travers de la guerre russo-ukrainienne, c'est bien combien, en réalité, il est difficile de nos jours d'envahir un autre pays. On a vu d'un point de vue conceptuel en plus que d'envahir l'Ukraine était relativement facile, c'est plat, il y a des champs de blé et d'autres champs à côté, alors qu'envahir Taïwan, qui est extrêmement escarpé avec des côtes, il y a littéralement trois plages et trois plages seulement où la Chine pourrait débarquer. Ça voudrait dire en plus que la Chine devrait avoir des officiers extrêmement compétents. Or, c'est très difficile pour la Chine qui, en gros, dans son état-major, vire ses élites à peu près tous les 6 mois, probablement pour des raisons de corruption. Et il faudrait que les trois armées, armée de terre, armée de l'air et la marine chinoise, travaillent de concert, chose qui se remarquerait un petit peu quand même.
Et bloque le détroit de Formose, qui est un endroit où passent des millions de bateaux et les États-Unis, je ne sais pas combien de porte-avions. Donc, tout ça, ça paraît assez enfantin. Et puis, c'est loin. Oui. Tout le monde pense que quand ils regardent la carte, ils se disent c'est à côté. Mais parce que c'est la carte de l'Asie, et l'Asie c'est très grand. Mais en fait, ça fait 100 kilomètres. Donc, si tu veux, c'est pas la Manche. Hein.
Et puis alors, rappelons autre chose aussi, la Chine n'a pas mené d'opération militaire depuis le Vietnam en 79.
Et il s'était pris une branlée.
C'est pas le genre de choses, tu te réveilles pas un matin en te disant tiens,
et
on
puis
va
les
aller.
Les Chinois ne croient. C'est curieux, mais ils ont eu assez peu de guerres dans leur histoire, je crois. Ils ont été envahis un paquet, mais ils sont rarement sortis pour aller envahir les autres. Quoi.
Et par ailleurs, en termes de bombardement, la Chine a énormément développé le long des côtes. Oui. Dernièrement, donc bombarder ces zones, ça serait bombarder ses propres activités économiques.
Et ça pourrait être bombardé par des drones qui sont incontrôlables.
Voilà, donc ça serait une destruction économique mutuellement assurée, ce qui n'est pas vraiment... voilà. Donc dans la liste des choses dont vous devez vous préoccuper, l'envahissement de Taïwan par la Chine ne me paraît pas vraiment au pinacle des éléments à élaborer. Donc, voilà. On va essayer de se concentrer sur d'autres choses. Il y a suffisamment de raisons, comme je dis toujours à ma fille qui adore se faire du souci, pour se faire du souci. Nul besoin de vous en rajouter. Laissons ça au Washington Post et aux journalistes de l'AFP qui ont besoin de vendre du papier. Non, c'est des agents de pouvoir.
Je connais un jeune qui est doué dans le... tout ce qui est intelligence artificielle, il va lancer un journal où il y aura 6 ou 7 chroniqueurs de très grande qualité qui sont tous artificielle intelligence. Il va lancer le premier journal sans journaliste. Mais à mon avis, ça va être de bonne qualité.
Voilà. Donc, revenons à nos moutons et essayons maintenant de parler un petit peu du cycle du cochon, du cycle de l'énergie. Et pourquoi c'est important pour vous? Parce que si vous n'étiez pas endormi depuis les 5 dernières années, vous avez vécu aussi le mouvement des Gilets jaunes. Nous savons tous aussi que l'énergie, l'économie, c'est de l'énergie transformée. Donc, on a besoin d'une énergie relativement à faible coût, et vous en avez besoin aussi pour votre vie de tous les jours. Donc le prix à la pompe aura une incidence sur toutes nos vies. Donc c'est important de comprendre, donc restez bien avec nous, pour essayer de comprendre comment fonctionne le cycle de l'énergie et peut-être, si vous avez envie d'investir, pourquoi ça serait important.
Voilà, alors donc vous savez que dans l'économie, il y a ce qu'on appelle des cycles. Alors la première fois que j'ai entendu parler des cycles, c'était en première année d'économie à Toulouse, où le professeur nous avait parlé du cycle du cochon, parce que c'était assez facile à comprendre. Donc vous êtes paysan, le prix du cochon est très bas. Vous faites pas de cochon. Vous en produisez pas, il n'y a pas de cochon. Bon. Ce qui fait que comme personne ne produit du cochon, l'année d'après, le prix du cochon est très haut. Et à ce moment-là, tous les paysans se disent à ce prix-là, je vais faire plein de cochons. Donc, ils font plein de cochons, ce qui fait que l'année suivante, le prix s'écroule et qu'ils sont ruinés. Et ainsi de suite. Donc, le prix du cochon, c'est un prix est trop bas, vous en faites pas, donc, mais la demande commence à augmenter parce que le prix est très bas. Puis, à partir d'un certain moment, si vous voulez, comme vous en avez pas fait, vous, le prix monte, vous vous dites, je vais en faire. Et puis, vous en faites trop, et puis le prix, bon, donc, vous avez une espèce de galopage entre le prix, la quantité, le prix, la quantité, qui essaye de s'ajuster l'un à l'autre. Bon. Donc, je m'étais dit, tiens, c'est pas bête, ça me fait rigoler. Et donc, pendant toute ma vie, j'ai cherché des cycles réguliers, parce que quand vous avez repéré un cycle régulier, c'est une façon d'investir qui n'est pas plus désagréable qu'une autre.
Est-ce que tu peux me rappeler quelle est la différence entre un cycle de Juglar et un cycle de Kondratiev ?
Alors, un cycle de Juglar, c'est un cycle qui est lié, sur lequel j'ai fait tout un tas de papiers qui sont d'ailleurs dans le cycle de Juglar, c'est un cycle à 10-12 ans qui est lié au développement d'une infrastructure. La Chine a connu un cycle de Juglar très fort dans l'immobilier qui s'est terminé il y a quelques années, qu'on est en train de nettoyer. Le cycle de Kondratiev, c'est quelque chose qui dure à peu près 50-60 ans et c'est lié à nouvelles inventions.
D'accord. Donc il y en a un qui est disruptif et l'autre...
Ils sont tous les deux disruptifs, mais c'est-à-dire que je prends le cycle de Juglar, par exemple, 11 ans, 12 ans, et ce qui se passe, c'est que par exemple, tu commences à faire des chemins de fer aux États-Unis, ce qui demande de l'acier.
Oui.
Bon, alors tu vas faire plein d'acier pour tes chemins de fer, mais comme ça monte tout le temps, il a fallu faire des chemins de fer partout sur tout le territoire nord-américain, donc la demande a été très forte. Et quand la demande est très forte, tu dois faire aussi des usines d'acier.
Oui.
Pour faire des usines d'acier, tu vois ce que je veux dire? C'est-à-dire que tu accumules du capital. Donc, à ce moment-là, tout le monde se met à faire de l'acier. Et puis ça monte. Et puis à un moment, t'as plein de capacités d'acier, des millions de tonnes, ou des dizaines de millions de tonnes. Et puis, ça y est, tous les chemins de fer sont faits.
Oui, c'est ce qui s'est passé avec l'immobilier en Chine.
C'est ce qui s'est passé avec l'immobilier en Chine. Donc à ce moment-là, la demande d'acier passe de 10 millions de barils, de 10 millions de tonnes à 2 millions de tonnes, poum, et tous les fabricants d'acier sautent. Et c'est pas évitable. Parce que si tu veux avoir 10 millions de tonnes pendant 4-5 ans, il faut que tu aies une capacité de 12 ou 13 millions de tonnes. Et ainsi de suite. Donc, cette espèce de grands à-coups comme ça, c'est pas évitable.
C'est un peu comme la gestion de mon frigo quand j'étais en garde alternée. C'est-à-dire, il y avait une semaine où il y avait beaucoup de flambis et l'autre semaine où je savais pas quoi faire des flambis.
Voilà.
C'est très difficile d'en gérer un frigo.
C'est plutôt aussi du cochon, ça. C'est un cycle hebdomadaire, ça peut arriver aussi. Et donc, pour l'énergie, je vais vous montrer qu'il y a un cycle qui dure à peu près 30 ans. C'est-à-dire que ce qui se passe, je vais essayer de vous le décrire de façon littéraire, et puis ensuite on va vous montrer quelques images, mais ce qui se passe, c'est que le prix de l'énergie est très bas. Parce qu'on a trouvé de l'énergie. Bon, à ce moment-là, tout le monde utilise l'énergie pour faire des produits, tu vois ce que je veux dire, l'économie, c'est de l'énergie transformée. Si le prix de l'énergie est bas, tu peux faire des produits pas chers que tu vendras aux gens, tu vois, c'est assez facile. Donc à ce moment-là, bon, la demande d'énergie monte puisque tout le monde fait de plus en plus de produits, tu vois. Et puis comme le prix est très bas, les producteurs de pétrole, par exemple, ils vont pas faire des trous parce qu'à ce prix-là, ils peuvent pas gagner, quoi. Donc ça monte. Donc tu as une offre d'énergie, mettons, qui est aujourd'hui à 100 millions de barils par jour. Et puis tant qu'on est à 90, 95, le prix monte pas, tu vois, ça va. Et puis un jour, tu as la demande d'énergie qui passe au-dessus de 100. Et à ce moment-là, il y a une pénurie. Et comme c'est un truc très très important, le prix va pas monter de 2 ou 3%, il va doubler ou tripler. Et à ce moment-là, l'énergie devient très chère. Et du coup, comme l'énergie est très chère, tout le monde se met à faire des trous.
Oui.
C'est le même coup que le cochon.
Oui, bien sûr. C'est la même logique.
C'est la même logique. Mais sauf que pour faire un trou et qu'il amène de pétrole, il faut entre 5 et 10 ans.
Et voilà.
Donc, grosso modo, quand tu regardes l'histoire de l'économie, je vais essayer de montrer dans les 40 ou 50 dernières années, ou même deux siècles, tu vois quelque chose d'assez rigolo, c'est que tu as 20 ans de prospérité quand l'énergie est pas chère, et puis 10 ans où tout le monde rame, quand l'énergie devient très chère, puis là, à la fin, ils ont trouvé plein de pétrole, donc ça remonte. Et ainsi de suite. Donc, il y a une espèce de cycle à 30 ans, Et ce que j'essaie de montrer, c'est où on est dans ce cycle et comment peut-être se dépatouiller pour jouer ce coup-là dans les portefeuilles, tu vois ce que je veux
et
dire.
Et tu avais dit quelque chose la semaine dernière, je ne sais plus si c'était avec Léonard ou avec moi, puisque je regarde les deux émissions, tu avais dit qu'aussi les grandes crises arrivaient toujours quand l'énergie surperformait le S&P.
Voilà, ça, c'est ce que je vais montrer aussi. Quand l'énergie se met à surperformer le S&P, c'est...
Parce le que S&P, c'est donc les valeurs...
Vous pouvez imaginer valeurs... dans votre tête que vous avez les valeurs consommatrices d'énergie, je ne sais pas... Coca-Cola, allez. Et puis les valeurs productrices d'énergie, Exxon. Et quand vous regardez depuis un siècle ou un siècle et demi, on a les chiffres dessus, on voit très bien que les deux ont la même performance sur le long terme.
D'accord.
Tu vois, c'est-à-dire que Exxon et Coca-Cola, ça fait pareil, quoi. Mais il y a des moments où pendant 20 ans, Exxon fait mieux. Coca-Cola fait mieux parce que l'énergie est pas chère. Et puis quand l'énergie devient chère, Exxon se met à faire mieux. Pendant 10 ans. Donc, vous avez un basculement. Il y a des moments où il faut jouer dans les marchés financiers les consommateurs d'énergie, les fabricants de bagnoles, allez. Et puis, il y a des moments où il faut jouer Exxon, quoi. Tu vois, ou au total, c'est pouf, tu passes de l'un à l'autre comme ça. Et je vais vous montrer un peu comment on suit ça, parce que c'est important. Alors, c'est certainement pas quelque chose qui va vous permettre de faire du trading journalier, mais c'est qu'il faut vous mettre dans. C'est pour essayer de vous mettre dans la tête un peu comment ça fonctionne. En dehors du bruit que peuvent faire ces news ou tous ces trucs-là, quoi. J'ai rien contre ces news, hein, c'est pas ce que je veux dire, mais il y a des structures qui sont là dans l'économie et essayer de les comprendre, c'est une façon d'agir, parce que si tu comprends pas ce que tu fais.
Oui, c'est ce que tu dis souvent. Quelquefois aussi, pour prendre des décisions, il faut s'extraire du bruit. Et ce bruit est amplifié de nos jours, parce qu'on a tellement de moyens de chercher des informations, qu'en réalité, la véritable information aujourd'hui, c'est de savoir la substantifique moelle, parce qu'on en a presque trop.
En a beaucoup trop, parce que pour tous les calculs qu'on fait avec Didier, on se rend compte que. Sur les nouvelles qui sortent tous les jours, il y en a 97% qui sont du bruit, 3% qui sont importantes. Donc le travail qu'on essaye de faire à GAFCAL et pour vous à l'Institut des Libertés, c'est de vous dire ces 3%-là, c'est important. Les 97%, arrêtez de regarder ça. Taïwan fait partie du bruit.
Oui.
Tu vois,
c'est j'espère que vous saurez désormais.
Alors, on va regarder la première graphique que je vais vous montrer. C'est un graphique qui est très intéressant. Voilà, ce sera donc le graphique qui s'appelle... Attendez, j'essaie.
Le cycle à 30 ans dans le prix du pétrole.
Le prix du pétrole. Alors, ce que j'ai fait pour ce cycle...
Tu fais ça.
Mais je fais ça, je fais comme ça. C'était ton jeune neveu avec qui j'avais donné une image et il était là, vous savez, il
essayait de l'ouvrir.
Il essayait de l'agrandir. Parce
comme sur l'iPad.
Comme sur l'iPad, mais ça ne marchait pas. Sur le papier, ça ne marche pas. Donc, ce que vous avez là, c'est un graphique tout simple. C'est que vous faites le ratio... entre le Standard & Poor's 500, donc l'indice boursier américain le plus important, etc., que vous divisez par le prix du pétrole, le WTI, qui est le West Texas Intermediary, c'est-à-dire c'est le prix du pétrole aux États-Unis. Voilà. Alors vous regardez ce graphique, et il commence donc en 1920, je crois, et vous voyez, c'est très curieux, il est plat. Tu vois, il est complètement plat. Il n'y a pas de tendance. Pourtant, il s'en est passé des choses depuis un peu plus d'un siècle. Hein. Il est complètement plat.
Je ne comprends pas pourquoi tu me dis qu'il est plat, alors que moi, je vois une courbe rouge qui ne fait qu'osciller.
Il ne fait qu'osciller, mais autour d'une horizontale. Il n'y a pas de tendance. Il ne monte pas, ça ne baisse pas, c'est plat. C'est-à-dire que là, vous avez donc un graphique, littéralement, entre les consommateurs de pétrole, le S&P, et les producteurs de et le pétrole lui-même. Et tu vois que c'est plat. Ça bouge pas. Mais par contre, je veux dire ça bouge pas, c'est autour d'une horizontale. Mais par contre, ça passe sur l'aisselle de gauche. À des moments, c'est à 240 et à des moments, c'est à 30. Donc tu vois, il y a des variations de prix extraordinaires, mais autour d'une horizontale. Et ça, c'est très important. Donc, on va regarder l'endroit où le marché des actions fait son plus bas.
D'accord.
Par rapport au prix du pétrole. Bah, c'est 1920. Tu vois, là, le premier, là, bien, bien, un sacré trou. C'est 1950, c'est 1980 et c'est 2010. C'est-à-dire, c'est tous les 30 ans. Paf, 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 ça.
C'est un joli cycle, ça.
C'est un joli cycle, tu vois. Ben, c'est ce que je te dis, c'est à peu près ça. Et les sommets, c'est à peu près pareil, quoi. C'est à peu près aussi tous les 30 ans. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on a un cycle de 30 ans sur le pétrole, et que ce cycle, ben, quand, pour faire une long story short, c'est ce que je vais essayer de montrer dans le deuxième graphique, c'est si la ligne rouge monte, ça veut dire que tu transformes de l'énergie de façon productive. Mm-hmm. Tu gagnes plus d'argent en achetant de l'énergie et en faisant des produits, et donc la ligne rouge monte. Donc ça veut dire que c'est prospérité. Quand la ligne rouge monte, le monde est prospère. Et puis quand la ligne rouge baisse, ça veut dire que tu essayes de faire des produits avec de l'énergie, mais que tu perds du fric. Et donc, à ce moment-là, c'est pas une bonne nouvelle, quoi. Tu vois, je veux dire, c'est des périodes embêtantes, quoi. Et tu vois qu'en général, les baisses sont beaucoup plus pentues que les hausses. Mm-hmm. C'est-à-dire que d'un seul coup, paf, t'arrives à un niveau où il y a pénurie, et à ce moment-là, ça monte beaucoup. Bon. Alors, tu te dis ça, bon, ben alors, grosso modo, si je veux être investi intelligemment, ce que je peux faire, c'est que je peux me mettre, quand la ligne rouge monte, je suis en action. Et quand la ligne baisse, rouge baisse, je me mets en pétrole. Tu vois, ça paraît une... Alors donc, maintenant, une fois que tu as découvert ça, tu dis, maintenant, je vais essayer de trouver une règle qui me dira de façon objective quand je dois passer de l'un à l'autre. Quoi. C'est toujours comme ça que je raisonne. Quoi. Alors, on arrive à la deuxième. Et alors là, ça s'appelle...
Ça s'appelle ratio S&P 500 sur prix du pétrole et moyenne mobile à 7 ans.
À 7 ans. Alors là, vous voyez, je mets... c'est le même ratio que le... c'est avant, là, vous voyez, c'est le même à peu près. Et la ligne...
Donc la ligne rouge, c'est le nouveau ratio S&P 500 sur prix du pétrole.
Et l'autre, c'est...
La moyenne mobile à 7 ans.
C'est 7 ans du truc. Donc, je vous ai dit, quand la moyenne mobile passe... au-dessus, le graphique n'est pas assuré, il est blanc. Et puis quand la ligne rouge baisse, c'est assuré jaune. Là, tu vois, donc tu vois bien qu'il y a des périodes où tu dois être dans le marché des actions. Par exemple, de 1981-82 à 2000, il fallait bourrer comme une bête. Puis
oui,
t'as eu 12 ans où t'as pris ta Kellac.
Oui.
Et puis ensuite, t'en as eu, puis t'as eu une baisse. Et puis maintenant, on est à nouveau dans une période blanche. Donc... On peut dire on est dans une période favorable au marché des actions,
oui,
malgré tout ce que vous lisez partout, s'il n'y a pas de raison de se faire de soucis. Donc c'est une façon mécanique de prendre une décision sans s'énerver avec les décisions. On a cassé ou on n'a pas cassé, c'est binaire, quoi. Tu vois ce que je veux dire, c'est... Et comme on a cassé 4 ou 5, que peut-être, je sais pas, 1, 2, 3, 4, 5, 6 fois, il y a eu 6 changements en un siècle. C'est pas quelque chose qui se passe toutes les 5 minutes, tu vois ce que je veux dire. C'est vraiment un truc... Bon, alors ensuite, qu'est-ce que tu fais? Bah, tu te dis, bon, bah, une fois que j'ai pris cette décision, je prends mon petit machin là. Et ça
alors celui-là, il s'appelle « Période dangereuse pour les actions » et le Shiller PI. Alors voilà, tu vas réexpliquer c'est quoi le Shiller.
Le Shiller PI. Alors là, donc, les périodes assurées jaunes... C'est les mêmes que sur le graphique précédent. Le Shiller PI, c'est un machin que vous prenez, qui est le PI moyen du marché des actions, calculé par un homme qui s'appelait Shiller, qui a eu le prix Nobel pour ça, et qui est remonté jusqu'en 1880 à peu près, tu vois, en arrière comme ça pour faire le calcul. Ça te dit dans le fond, si la ligne noire est très haute, ça veut dire que le marché des actions est très cher. Si la ligne droite est très basse, ça veut dire que le marché des actions est pas cher. Et si la ligne noire baisse, ça veut dire que le marché des actions est en train de baisser, quoi. Parce que dans le marché des actions, tu as deux composants. Tu as le bénéfice fait par action. Par exemple, la société XYZ, elle gagne 10 dollars par action. Très bien, elle gagne 10 dollars par action. Et elle est cotée en bourse à 100. Donc ça veut dire que son multiple... et de 10.
D'accord.
Et tu peux te mettre dans la tête que, dans le fond, c'est le nombre d'années de bénéfices que tu dois payer pour devenir propriétaire. Donc, si tu payes 5 années de bénéfices, qui est à peu près le plus bas ici, ça veut dire qu'il suffit que tu payes 5 années de bénéfices pour devenir propriétaire. Et puis, en 2000, il fallait donner quelque chose comme 45 ans de bénéfices avant de devenir propriétaire, donc c'était très cher, quoi. Tu vois ce que je veux dire? Donc c'est une façon de mesurer le marché des actions Le marché de l'action a toujours deux choses, les bénéfices et le multiple. Et là, tu mets que le multiple. Comme ça, tu ne prends pas en hausse, tu prends pas en cause, là. Tu mets pas, tu ne prends pas en compte la hausse des bénéfices qui a eu lieu sur le long terme. Comme ça, tu fais juste la partie multiple. Tu peux dire que, littéralement, c'est le prix du temps. C'est-à-dire à combien les marchés estiment la valeur du temps.
D'accord.
Parfois c'est 5 ans, c'est très bon marché, parfois c'est 45 ans. Et c'est une sorte de fou parce que personne... C'est la folle du logis, ce truc-là. Tu vois, c'est vraiment le truc. Regardez, par exemple, je vous montre le graphique, donc je reviens dessus. Vous voyez que vous êtes là, vous êtes en plein haut, tout à fait au haut de la truc Internet...
En 2000.
En 2000, vous êtes content comme tout comme l'internet va conquérir le monde. Ce qui s'est passé.
C'était trop tôt. Et puis il y avait ça.
C'était à 45. C'était très bien. Et puis 10 ans après, donc en 2010, vous êtes tombé de 45 à 15.
Mets-toi bien dans le micro. Oui.
De 45 à 15. C'est-à-dire que vous avez eu raison. L'internet a repris le monde et vous avez pris une gamelle pas possible en bourse parce que vous avez acheté quand c'était trop cher. Hein. Donc grosso modo, c'est ça l'idée, c'est que ça te permet de savoir si tout le monde est optimiste ou si les gens sont pessimistes. Et alors là donc, vous voyez que ce Schiller Pi qui mesure en quelque sorte en temps réel, est-ce que les marchés ne sont pas chers, quand les périodes jaunes, c'est-à-dire quand le prix de l'énergie monte plus vite que le marché, ben, elle se pète la gueule à chaque fois. Donc le déterminant du Schiller Pi, c'est le prix de l'énergie. C'est-à-dire que tu peux être... Ce qui s'est passé, c'est qu'en 2000, c'était le bonheur total, sauf que le prix du pétrole est passé de 30 à 110.
Pourquoi à l'époque est-il passé de 30 à 110 ?
Parce qu'on est passé au-dessus. Parce que l'offre est passée en dessous de la demande.
Cycle du cochon bête, il n'y avait pas eu un détroit d'Hormuz fermé.
Non, ça peut se passer pour des raisons parfaitement...
Cycliques. Sans événements extérieurs. Parce que bon, en 72, quand il y avait eu...
Il y avait eu une guerre et tout, mais c'est arrivé aussi à un moment où Pan...
Les deux sont... Un peu comme maintenant, non ?
C'était un peu ce que disaient les gens. Mais la réalité, c'est bon, c'est en train de se... Peut-être, en tout cas, il y a l'air d'avoir un cessez-le-feu là-bas.
Wait and see,
mais pour l'instant, alors que tu vois qu'en 72, 73, 74, là, on a été quand même... On est resté pendant quasiment 10 ans dans une période jaune. C'est-à-dire que le prix du pétrole, d'abord, il est passé de 3 à 12... Puis de 12, quand il y a eu la crise iranienne déjà, à 30. C'est-à-dire qu'on avait décuplé le prix de l'énergie. Il a fallu du temps avant que l'énergie suivante arrive. Parce qu'on s'était fait prendre un peu les... Tu sais, comme disent les Américains, avec les pantalons en bas. Quoi.
Oui.
On
était les pantalons sur les chevilles.
Les pantalons sur les chevilles, c'est difficile de courir à ce moment-là. Et là, il y a eu un petit... Et puis ça s'est calmé, bon... Donc il y a un problème politique qui pourrait couper l'offre.
Oui.
Mais bon, les gens ont eu très peur.
Je regardais...
Le prix du pétrole s'est pété la gueule bien.
Oui.
Parce que...
Au contraire. Et puis après, c'est remonté un petit peu. Et puis tout le monde avait l'air, sur les marchés, d'en avoir un peu rien à foutre de l'Iran, en vrai.
En vrai, évidemment. Puisque, quelque part, si tu réfléchis, tu te dis, bon... Qui achète le pétrole iranien, c'est la Chine.
Oui.
Bon, grosso modo, c'est la Chine. Si la Chine ne peut plus acheter le pétrole iranien...
T'achètes du gaz aussi.
Il n'a pas acheté du gaz aussi. Tu sais quoi ? Il y a les Russes qui sont très contents de vendre du pétrole et du gaz à la Chine.
Est-ce que ça ne va pas ralentir un petit peu la croissance chinoise de notre portefeuille ?
Si le prix du pétrole reste en dessous de 70... Ça n'a ni fait ni à faire, c'est pas... C'est simplement quand le prix du pétrole atteint un niveau critique qu'à ce moment-là, tu vois le marché des actions faire moins bien que le prix du pétrole et tu sais que le niveau critique a été atteint et tu te barres. Et c'est la moyenne mobile à 7 ans. Pour l'instant, on en est loin. On en est loin. Donc la question... Donc ce qu'on dit avec Didier depuis un petit moment à tous les gens qui veulent bien nous écouter, c'est le marché des actions est dans une hausse structurelle parce que le prix de l'énergie est suffisamment bas. Mmh. Et tout ce qu'on va vous raconter sur les drames, le chômage, l'inflation, ça c'est que des conneries. C'est le prix de l'énergie, c'est ce qui détermine la croissance économique. C'est pas difficile, c'est pas assez facile à comprendre. Donc, pour l'instant, on reste, mais il n'en reste pas moins que on est en train de, si vous voulez, aujourd'hui, la demande de pétrole mondial, c'est à peu près 101, 102 millions de barils par jour, et l'offre telle qu'elle existe, d'après les calculs de BP, qui publie des statistiques sur le long terme là-dessus, donc j'espère qu'ils sont bons, mais je m'en sers depuis longtemps, on est à 99-100 en ce qui concerne la demande. L'offre est à 102, tu vois, c'est... Et tu te dis, bon, 2 millions de barils, on arrive au moment où ça pourrait coincer.
It's a bit crispy.
Ouais, it's a bit, c'est un peu difficile. Donc, ce que je dis aux gens, c'est que si vous me prenez maintenant, vous avez deux indices. L'indice de la consommation, mettons dans lequel il y a les Coca-Cola, allez, ou les Amazon, ou les Microsoft, et l'indice de la production, donc là, vous avez les Exxon et les Total. Si vous faites le ratio entre les deux, tu fais donc lequel, ben chaque fois qu'on est dans une période jaune, ce qui est bien normal d'ailleurs, les valeurs de pétrole font beaucoup, beaucoup mieux que les valeurs de consommation. Donc ce n'est pas le cas aujourd'hui. Mais si tu prends, comme elles font la même chose sur le long terme, ce qui est intéressant, c'est qu'aujourd'hui, les valeurs de production de pétrole sont à un plus bas historique. Donc ce n'est pas le bon moment pour les acheter, mais en même temps, elles ne sont pas chères du tout. Donc, en avoir un petit peu de côté pour t'assurer qu'au cas où il se passerait un pet sur les marchés, c'est pas une mauvaise idée. Donc, c'est une espèce de hedge, de protection contre quelque chose de désagréable qui se passerait sur les marchés du pétrole. Tu sais qu'à ce moment-là, tu t'en sortiras, quoi. Si tu te mets, par exemple, ta position action 50% en Chine qui bénéficie massivement du pétrole pas cher et puis 50% en valeur de pétrole qui te donne du 5 ou 6% de rendement, tu te dis, j'ai un portefeuille qui devrait à peu près cartonner dans tous les cas de figure, quoi, ou du moins s'en sortir pas trop mal. Donc c'est un peu ça, c'est vous essayez de vous expliquer que notre monde n'est pas difficile à comprendre. C'est un monde dans lequel, pour fonctionner, il faut qu'il y ait de l'énergie pas chère, abondante, etc. Mais alors, tu te dis, parfait. Où est-ce que je vais avoir de l'énergie abondante? Bon, alors aux États-Unis, ils ont cet avantage énorme d'être autosuffisants énergétiquement. Oui. Ils produisent à peu près 12 millions de barils par jour, c'est à peu près ce qu'ils consomment aussi, je crois. Oui, ça doit être ça. Si mes souvenirs sont exacts. En Asie, ils ont, dans tout ce que l'on appelle le cercle de Valéry Pieris, ils sont extraordinairement dépendants de l'énergie.
Alors, je rappelle pour ceux qui ne s'en souviendraient pas que le cercle de Valéry Pieris, c'est vous vous mettez à Hong Kong, vous prenez un compas et vous tracez un cercle de 5000 km.
De 3000 km,
3000
en, rond,
km
ça, de rayon.
En rond. Voilà. Et vous avez le fameux cercle de Valéry Pieris qui est l'espace de croissance future.
Ben, c'est là où il y a la moitié de la population mondiale. C'est là où il y a à peu près 70% de la croissance mondiale. Et c'est là où il y a à peu près 100% de l'épargne mondiale. Donc,
les chances sont que la croissance sera là.
La croissance, tant qu'il y aura de l'énergie pas chère, elle sera là. Donc, comme les actions ne sont pas chères du tout pour des tas de raisons, parce que la Chine n'est pas investissable ou des bêtises comme ça, Mais alors, quand vous regardez l'Europe, je reviens toujours à l'Europe, bien sûr, c'est que le but de la Commission européenne annoncé dans ces trucs, c'est quand même de faire baisser notre consommation d'énergie de 30% dans les 15 ans qui viennent.
Bah, bien sûr.
Mais si vous faites baisser, compte tenu du fait que l'énergie, c'est de l'économie, ça veut dire que vous allez faire baisser l'économie de 30%. C'est pas possible autrement.
Déjà que nous avons, nous, en France, un niveau de vie qui a été couplé par le fait que nous avons énormément emprunté. Donc en réalité, déjà, nous devrions connaître un déclassement d'à peu près 30%, indépendamment du fait que ces génies civils veulent aussi décroître. C'est-à-dire qu'on pourrait regarder désormais, avec le couplage de ces deux efforts, une perte de niveau de vie de 60%, puisque vous avez ces deux choses qui vont se mixer, c'est-à-dire le fait que nous ayons vécu...
Mais volontairement, ils mettent l'énergie chère.
Oui, bien sûr, volontairement.
Parce que pour volontairement... Alors que, c'est pas compréhensible, parce que si vous mettez l'énergie chère, ce qui va se passer, c'est que les gens qui créent de la valeur en utilisant de l'énergie, c'est-à-dire à peu près tout le monde, vont aller le faire ailleurs, où l'énergie sera pas chère.
Bien sûr.
Donc, et on me dit, le globalisme, ça marche pas. Ben, je leur dis, ça marche pas, parce que vous avez une série de crétins en France et en Europe qui ont décidé que la consommation d'énergie était un péché. C'est-à-dire, c'est au niveau moral. Et je me tue à dire, mais écoutez, on peut ce qu'on veut, mais vous avez eu, je crois, que depuis qu'on est capable de bâtir des scénarios de glaciation ou de réchauffement, comme je crois qu'on en est au 17e réchauffement, qui ça a beaucoup plus à voir avec la position des planètes, etc. Et que ce réchauffement, d'après les meilleures études que j'ai vues, il a fait monter pour l'instant la température la plus basse, mais pas tellement la température la plus haute. Parce que je ne sais pas si vous avez remarqué tous ces corneaux, je ne sais pas si vous avez vu les cartes, ça m'amuse beaucoup. Parce
que elles sont cramoisies alors qu'il fait certes chaud,
mais
il fait 32.
On te montre la même carte, faite par la même chaîne de télévision, il y a 15 ans, où tu montres la France, il va faire 30 au mois de juillet, ce qui est quand même effrayant.
Bah, on a tous passé des baccalauréats en ayant chaud comme comme des ânes. Enfin, moi, je me souviens d'avoir passé un bac de français. Si j'avais pu le passer en deux pièces, je l'aurais passé en deux pièces. Il faisait une chaleur dans cette salle, c'était horrible.
Et donc, tu as ça. Et puis maintenant, tu produis la même carte avec les mêmes températures, mais elle était tout à fait normale. Et là, c'est tout rouge, regardez, il fait très chaud. Il fait très
chaud.
C'est
la fin des temps.
C'est la fin des temps, on va tous mourir.
C'est dans Tintin, tu sais, t'en avais un qui...
Il y en avait un qui m'a dit, oui, il y avait là...
Je sais plus comment il s'appelait.
C'était l'île mystérieuse, dans laquelle il y avait le fou qui était là, qui disait...
Avec un triangle et qui
tapait. Il disait, la fin du monde arrive. Mais c'est les écolos, il devait être écolo en mélange. Donc, le vrai problème que j'ai, c'est que vous avez... À la place, par exemple, de développer une énergie abondante et pas chère, ce qu'avait fait De Gaulle, Pompidou et Giscard. Ils avaient fermé Fessenheim, qu'ils essaient de rouvrir maintenant. Mais ce qui est extraordinaire, si vous voulez, c'est que celle qui avait été chargée de fermer Fessenheim, c'était celle qui est devenue Premier ministre ensuite, maintenant qui est ministre de l'Éducation.
Oui.
Bref, polytechnicienne.
Borne,
oui. Et donc, vous avez des gens maintenant qui ont comme objectif de rendre l'énergie chère pour pas que vous vous abîmiez la planète. Mais qu'est-ce qui se passe? Allez, vous avez, je sais pas, un fabricant de chaussures en France. Bon, il peut plus le faire parce que le prix de l'électricité est trop monté. Bon, alors qu'est-ce qu'il va faire? Ben, il va mettre son usine de chaussures, je sais pas, au Bangladesh.
Donc, au Maroc, dans le meilleur des cas, oui.
Ce que vous faites, c'est que vous transférez donc une production qui est consommatrice d'énergie de chez vous à un endroit, vous économisez pas d'énergie du tout. Tu fais que transférer d'un endroit où c'est pas mesuré. Donc nous on dit, regardez, on produit plus rien, donc on produit plus de CO2, mais comme on continue à consommer comme des gorées en empruntant, on emprunte des trucs, on achète des trucs au Bangladesh, qui malheureusement, sans doute, a une production énergétique qui n'est pas de bonne qualité, ils salopent tout, ils font du charbon, j'en sais rien. Donc, c'est une bêtise, c'est-à-dire la politique européenne est faite comme si on était une planète indépendante et que les gens n'avaient pas la possibilité de sortir, etc. Ce sont des crétins.
Si
on en avait discuté avec Furfari, tu te souviens ?
C'est marrant, j'allais dire, si ce sujet vous intéresse donc, allez voir l'émission de Charles et Samuel Furfari, qui est un ancien...
Haut fonctionnaire
à Bruxelles, qui est un homme très, très intéressant, qui est très délicat dans sa façon de penser, et qui a tout dit. Je pense que son livre est remarquable, et il a absolument tout compris dans tout ce qui est consommation d'énergie.
Quand il était jeune à la Commission européenne, il doit avoir mon âge ou peut-être un peu plus jeune, il disait, c'était extraordinaire à l'époque parce qu'on cherchait tous des moyens, et c'était un scientifique, de développer de l'énergie pas chère.
Oui, parce que, mais d'ailleurs, ils y étaient arrivés.
Ils y étaient arrivés, ça marchait très bien, la Communauté européenne de la
Suède. Et on l'a vu aussi dans le bouquin de Proglio, dont on a parlé, que vous trouverez dans les références. C'était aussi le but d'EDF. Et pendant très longtemps, par exemple, c'est ce qui se passait avec l'hydraulique. Tous les barrages avaient...
Servaient de
chambre de compensation, dans les flux. Et ce serait une façon intelligente aussi de...
Par contre, ce que l'Europe, si vous voulez, vous savez, la façon dont la centrale nucléaire monde fonctionne, c'est qu'elle fonctionne bien si elle est à 95% tout le temps. Vous voyez, c'est une espèce de machine qui, de fond, ça fait le fond de ton truc.
C'est un tanker.
Voilà. Et puis, vous avez de temps en temps la demande qui va passer au-dessus de ça. On est déjà à fond, on peut pas y arriver. Donc à ce moment-là, vous aviez les barrages qu'on mettait en route et qui produisaient l'électricité supplémentaire en faisant baisser l'eau, en attendant que leur demande système qui marchait très bien en s'appuyant l'un sur l'autre.
Dans la gestion des flux.
Et puis, ces imbéciles en Europe veulent absolument qu'on privatise les barrages en France. Mais c'est un crime contre l'écologie, mais ils sont tellement obsédés par l'idée de créer des concurrences. Moi, c'est toujours ce que j'ai dit, dans un truc comme l'énergie, compte tenu des dépenses et des répercussions que ça a sur la souveraineté, en bon libéral, je ne vois pas du tout pourquoi ça devrait être concurrentiel.
Je ne vois pas du tout non plus.
C'est idiot.
Non, mais à partir du moment où c'est une de nos souverainetés, il n'y a aucune raison parce que les miens vendent les vôtres. C'est simplement... Et puis, moi, je me suis donné la peine, mais c'est un peu l'histoire de la petite poule rousse. Je me suis donné la peine de moudre le blé, cuire le gâteau, monter ma bonne centrale. C'est pas pour ensuite la filer à Jean-Pierre qui est resté à rien foutre.
Surtout les Allemands. Alors, eux, ils ont rien fait. Ils ont fermé leur centrale sans demander notre avis, d'ailleurs.
Sinon, le reste du temps, ils brûlent du charbon hyper
polluant. Donc, si vous voulez, c'est extraordinaire de voir comment, pour revenir à mon histoire des Grecs, le logos, le pathos et l'éthos, à cause d'un pathos imbécile, l'Allemagne s'est collée dans une situation énergétique désastreuse, mais à cause du même pathos imbécile, nous, les Français, on a décidé qu'à la place de bénéficier d'un avantage concurrentiel considérable, qui serait d'avoir le kilowattheure, je sais pas combien, à 60, à la place de l'avoir à 100, pour pas embêter les Allemands dans leurs efforts, on va le coller à 120, ce qui fait que tous les boulangers en France ferment. Mais vous avez envie de leur mettre des claques, quoi. C'est à ce point de mettre du pathos, c'est-à-dire l'Europe, en sautant comme des cabris sur votre chaise, comme disait De Gaulle, et puis le CO2, et surtout qu'il n'y a toujours pas de preuve qui a été établie entre le réchauffement atmosphérique et le CO2.
Non, mais nous savons de sources sûres, il y a eu beaucoup d'articles sur ça, qu'à partir du moment où l'URSS est tombée, tous les anciens communistes se sont reconvertis en écolo forcenés. Donc, il y a un discours qui tient du religieux, de la même façon que le trotskisme était une religion, et que, quelque part, tout passait par l'État, rien en dehors de l'État. Et on a aujourd'hui, dans cette pensée...
Le capitalisme est, dans son essence, mauvais. Donc, il faut...
Voilà. Et, quelque part, il est bien évident que cette pensée décroissante est aussi un trotskisme en ce qu'il s'attaque à notre liberté de commerce, à notre liberté d'action,
Parole, de mouvement.
De mouvement. Et il est certain que c'est une atteinte aux libertés. L'écologie est une atteinte aux libertés.
Absolument.
C'est un trotskisme, c'est une atteinte aux libertés.
C'est ce que... Thomas Sowell, dont on en sera parlé ici, disait, ça fait partie des oints du Seigneur, vous savez, c'est-à-dire que ils diagnostiquent un problème, qui n'existe peut-être pas d'ailleurs, ils prennent des mesures pour le régler, qui créent une situation dramatique, ce qui fait que les gens, après la solution donnée par les oints du Seigneur, sont dans une situation pire, et ils vont ensuite faire campagne pour être élus en disant, c'est parce qu'on n'en a pas
fait assez.
100 millions de morts, c'est pas assez, les gars.
Pas du vrai communisme. Laissez-nous une chance. Vous allez voir, la prochaine fois, on en fera 200 millions.
La prochaine fois, on en fera 200 millions pour arriver. Et là, c'est pareil. C'est-à-dire, on va vous empêcher de produire et vous serez pauvres, mais heureux. Surtout
vous ne posséderez rien et vous serez heureux.
Voilà, vous ne posséderez rien, vous serez heureux.
Oui, parce que, attention, Il y aura quand même les oints du Seigneur, les
anointed. Eux, ils seront bien, ils seront bien.
Eux, ils seront bien, c'est ça. Tout ce qui est le Young Leader, Klaus Schwab, tout ce qui est forum,
tout ça. Ils iront en avion.
Leurs enfants seront à l'école alsacienne, tout se passera bien. Et puis alors là, on a une espèce de tranche internationale. Tout ça se passera très bien. La plèbe, qui sera une espèce de vague molle vivante de transferts sociaux.
Les gueux
seront au milieu. Alors eux, ils n'auront plus le droit de bouger. On n'aura plus le droit de prendre un avion. On aura des tickets de rationnement véritablement. Ah, mais monsieur Gave, vous êtes allé voir votre fille deux fois cette année, c'est peut-être une fois de trop. Et ainsi de suite. Tout juste si vous pourrez aller à vos messes et encore. Hein, pour les enterrements, il faudra qu'on incinère tout le monde aussi, il faudrait pas voir. Et voilà la grande réconciliation, évidemment tout ça avec un gouvernement central qui sera à Bruxelles pour nous les Européens,
qui répondra aux ordres du gouvernement mondial qui sera je sais pas où.
Voilà, et pendant que le reste du monde se foutra de notre gueule, parce que je t'annonce que la Chine, alors on en a foutre de l'écologie. Hein.
Ben, l'écologie, la Chine, mais les États-Unis, ça a été aboli, tous les trucs écolos, ça a été aboli. Donc on a quand même eu une prise de pouvoir, c'est ce que j'avais essayé de montrer dans mon avant-dernier livre, celui qui est derrière, là, c'est La liberté vous rendra libre,
la vérité vous rendra libre,
c'était de montrer qu'il y a eu une prise de pouvoir d'une classe de sachants qui veulent imposer leurs préférences au reste du monde. Et vous le voyez, donc, comment ils vont se faire rattraper ces gens? Je reviens à ce qu'on a montré ici. C'est qu'à force de ne pas faire d'investissement ou de faire des investissements imbéciles pour l'énergie, qui ne rapportent rien du style...
Des miroirs magiques et des moulins
à vent. Ils vont avoir une crise énergétique considérable.
Mais bien sûr.
Mais donc, je ne sais pas quand ça va se produire, mais compte tenu des politiques suivies, c'est inévitable. Donc, je voulais vous prévenir en disant, voilà ce qu'il faut que vous regardiez. Si vous avez accès à un écran où il y a vous pouvez faire une moyenne mobile entre le marché des actions et le prix du pétrole, vous trouvez des données partout, une moyenne mobile à 7 ans, et puis vous regardez, le jour où ça casse, eh ben vous vendez toutes vos actions, et vous vous féliciterez d'avoir suivi l'Institut des Libertés.
En termes de pays, parce qu'il y a beaucoup de gens qui sont dans des PEA, alors on a beaucoup d'histoires...
Dans les PEA, si tu veux, dans ce cas-là, moi j'en discutais avec un... Vous savez que, on le dit d'ailleurs, il y a de temps en temps, assez souvent même, des gens qui arrivent le matin pour venir prendre un café avec nous. Donc, et là, récemment, j'en ai eu un qui était très sympathique, qui était un jeune, plus si jeune d'ailleurs, enfin, pour moi, tout le monde est jeune.
Oui.
Et donc, qui avait des actions totales. Et il me disait, monsieur Gaff, je comprends pas. Il me donne du 7% et ce dividende augmente tout le temps. Pourquoi tout le monde n'a pas du total?
Bah, oui.
À 7%. Ben, la réponse est...
Pourquoi vous n'avez pas du total
dans un PEA, vous voyez ce que je veux dire?
Bah oui, ou du Air Liquide.
Et je vous dirais que les plus gros actionnaires de Total, c'est le personnel de Total. Donc, ils ont bien compris. Donc, ce que j'essaie de dire, c'est vous avez dans les marchés des outils qui vous permettent d'être indépendant financièrement. On est en train de nous faire un portefeuille dont on espère qu'il aura des meilleurs résultats. Mais vous avez aussi peut-être la possibilité d'avoir un PEA, si vous l'avez déjà. Et à ce moment-là, vous pouvez vous coller des trucs, vous aurez du 7%, tranquille, ou du 3 ou 4, vous achetez un liquide, etc. Et encore une fois, mais qu'est-ce qui vous en empêche? Pourquoi vous donnez... J'ai vu que le SMICAR, aujourd'hui, il donne à peu près 450 à 500 euros par mois pour sa retraite.
Oui, mais on n'a pas le choix, ça s'est pris...
Mais 43 ans de vie, 500 euros par mois, il devrait avoir, quand il prend sa retraite, 1,5 million d'euros.
Oui, mais ça, c'est tu prêches pour la retraite par capitalisation.
Je veux dire, c'est quand même, après 43 ans, 1,5 million d'euros, il a 60% du SMIC comme retraite. Mmh. Donc, c'est-à-dire, il aura 1200 euros par mois de retraite. Mais c'est un vrai scandale.
Ah, mais c'est un vrai scandale.
C'est un vrai scandale. Donc, ils se foutent de ton, quoi. Donc, si vous pouvez mettre 500 euros par mois, vous...
Le problème, c'est que c'est toujours pareil. Comme ils te ponctionnent ça à la source, tu n'as plus le choix.
Deux fois.
Donc, en fait, aujourd'hui, oui, tu es obligé. Moi, tu m'as toujours dit que ma génération, et je sais très bien que quand j'arriverai à la retraite dans 10 ans, j'aurai absolument pas le montant pour lequel j'ai cotisé. Parce que j'ai cotisé des grosses années quand j'étais avocat et j'ai mis des bons gros montants.
Et la bourse est beaucoup montée depuis. Donc, si tu l'avais mis en bourse...
Si je l'avais mis en bourse, j'aurais fait beaucoup mieux. Et je sais très bien que j'aurais...
Donc, c'est encore une fois une tentative par ces gens du sommet d'empêcher les autres de grimper. On te dit l'ascenseur social ne fonctionne plus parce que, étant arrivé au sommet, ils ont coupé l'électricité pour que toi tu puisses monter. Tu dois monter à pied péniblement avec un gros sac sur le dos. Ben, tu ne vas pas monter 80 étages. Hein. Donc, ce qui est extraordinaire, c'est de voir l'extraordinaire hypocrisie qui règne dans ce monde, où les gens qui sont arrivés au sommet disent aux autres, écoutez, il n'y a pas assez d'air pour tout le monde là-haut. Quoi. On va vous empêcher de monter. Et c'est ce qu'ils font. Leur seul objectif, c'est d'empêcher les autres de monter. Et ils disent à ceux comme moi qui essayent d'aider les gens, vous êtes un horrible libéral. Ouais, je veux qu'on foute la paix aux gens. Ouais, j'ai pas honte. Le libéralisme, c'est quand même foutez-moi bien la paix, quoi.
Ouais.
Je respecte les lois, mais... Donc voilà, ça me paraît important ce qu'on dit en ce moment. Donc je vais essayer de vous expliquer, la façon dont le cycle de l'énergie marche. C'est le cycle du cochon, mais à 30 ans. Donc si vous avez tous été paysans avec des ancêtres paysans, vous comprenez le cycle du cochon. Le village est en 30 ans. On se rapproche de la période où ça pourrait péter. Donc la prochaine grande bas, le plus bas du marché sera probablement 2040, mais on est probablement des plus hauts, on est proche des plus hauts, donc il faut commencer à surveiller la bête, quoi. Voilà, ça me paraît simple et de bon goût. Hein.
Et voilà. Bon, ben, on a fait un bon petit tour, je crois, sur ce cycle de l'énergie, avec une mise au point sur les façons d'aborder les commentaires et Taïwan, on ne veut plus en entendre parler.
Et si vous adorez le gouvernement iranien, surtout, allez vivre en Iran. Quoi.
Oui, c'est, avec
personne
des monos,
ne vous en empêche.
Mais bien sûr.
Je suis sûr que vous allez adorer.
Voilà. Et personne n'achète personne, encore une fois.
Oui, d'ailleurs, à ce propos, si vous voulez nous acheter, on est corruptible.
Très corruptible. Surtout en rillettes.
Surtout en rillettes, il y a les rillettes. Ouais. Tiens, il faudra que j'en donne à ton chien, j'en ai ici.
Oui.
Non, mais ce que j'essaie de dire, c'est que j'ai été acheté donc par la CIA, puis un peu moins.
Par Israël. Par la Russie.
Par la Chine.
Par la Chine, bien sûr.
Par la Chine. Jamais par Macron, c'est dommage d'ailleurs. Et mais j'aurais eu du mal. Mais donc encore une fois, si vous avez envie de nous acheter, nous sommes corruptibles, mais on attend toujours l'échec. Hein.
Oui, on attend toujours l'échec. Parce qu'on ne vit pas au niveau
où on devrait vivre.
Où on devrait vivre.
Et encore une fois, l'Institut des Libertés, c'est supporté par qui ?
Bibi.
La famille Gav. Donc on touche pas un rond dessus, ça nous rapporte pas d'argent, et on fait ça dans le fond parce qu'on vous aime bien et surtout. Qu'on déteste les autres.
Enfin, ceux d'en haut.
Ceux
d'en haut. Voilà. Bon, bah merci de nous avoir suivis. Et on vous dit à très vite, à la semaine prochaine, avant nos grandes vacances. Voilà. Yeah, bientôt. Merci beaucoup. Au revoir.
Merci mille fois.